Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes le vendredi 22 octobre 2021. C'est le podcast Le Café de l'e-commerce, saison 3, épisode 91. Je suis Laetitia et je suis accompagnée d'Adrien.
Hello. Bonjour. Adrien. Coucou Laetitia, bonjour à tous, ici Adrien, accompagné de l'implosive Laetitia. Si vous critiquez Rihanna, les People ou tous ceux qui font de l'e-commerce avec leur statut, vous allez vous mettre à dos Laetitia. Donc Le Café de l'e-commerce est le premier podcast francophone, décalé et authentique pour tous les passionnés de l'e-commerce.
Le Café de l'e-commerce vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles. Au sommaire de cette émission, épisode 91, des news simples et funky, on part dans le YouTube game, on vous parle de The Couples et de seconde main. Marketplace, le gros scandale qui est passé littéralement à la trappe, Adrien a mené l'enquête. Le grand retour du Café du Cœur, cette semaine, je vais vous parler d'une offre d'emploi Marketplace. Et enfin, nouvelle rubrique, qu'est-ce que tu me racontes là? Qu'est-ce que tu me racontes là? C'est la rubrique où on va décrypter une grosse rumeur. Et cette semaine, je vous donne un petit indice, un dinosaure du paiement qui voudrait racheter un réseau social. Et comme à chaque fin d'émission, on s'amuse, on rigole, on joue. Je vous ai préparé un petit question pour un champion ou une championne du digital. On est parti!
Tissia.
Ouais, Adrien.
Prêt. Synchronisation des montres.
Toutes les news e-commerce dont on ne parlera pas cette semaine, mais qu'il ne faut pas louper, c'est la rubrique des news simples dans un format funky.
YouTube qui teste des fonctionnalités e-commerce pour le moment aux États-Unis autour du live shopping. On en parlait la semaine dernière, donc c'est amusant de voir que YouTube commence à avancer dans cette direction.
Et cette année, le 11-11, j'essaie de parler correctement français et d'éviter les anglicismes. Le 11-11, le single day, le jour des célibataires, d'Alibaba sera sous le signe du respect de l'environnement. Je sais pas si on doit en rire ou le respect de l'environnement et du lifestyle, parce que les deux coïncident bien souvent. Ça aura lieu le 1, le 2 et le 3 novembre et bien évidemment le 11 novembre.
The Couples qui annonce qu'il lance son site de seconde main.
Quick Commerce, l'allemand Gorillaz reçoit un financement de près de 860 millions d'euros.
IKEA France qui annonce qu'il réalise un tiers de son chiffre d'affaires en e-commerce et plus de 56% en termes de livraison et x2 en e-commerce par rapport à l'année dernière.
On peut maintenant confondre Shopify et Spotify en toute impunité. Ça nous arrive très souvent de les confondre d'ailleurs, puisqu'en fait, il y a un nouveau partenariat qui vient de se nouer entre le gros acteur du streaming et le gros acteur e-commerce.
Je pourrais vendre sur Shopify en écoutant Spotify. Non, je pourrais vendre sur
l'inverse.
Spotify en écoutant Shopify, c'est ça?
Voilà, c'est ça.
Google supprime ses pages et propose le scroll infini sur mobile. Et c'est d'abord aux États-Unis avant d'arriver dans le reste du monde.
Le centre commercial Wellfeed Forum des Halles, ça va pas.
Pourquoi
du tout. En gros,
en
c'est le centre commercial des Halles à Paris. Le centre commercial se lance dans la seconde main avec un nouveau concept qui s'appelle The Second Life. Ce dispositif permettra aux visiteurs du centre commercial de revendre leurs vêtements et leurs accessoires.
Et enfin, depuis le 21 octobre, donc depuis hier, les consommateurs peuvent revendre leurs produits de bricolage sur le site ou l'application Leroy Merlin.
Très seconde main, cette news simple et funky.
Pour cette news, what the fuck, cette semaine, Laetitia, moi, j'ai retenu Facebook qui veut changer de nom. Alors, on parle certainement pas du réseau social, mais du groupe Facebook. Encore une fois, on le verra. C'est Mark Zuckerberg qui a annoncé ça il y a quelques jours. Ils ont annoncé également le recrutement de 10 000 personnes hautement qualifiées en Europe. Pour développer ce qu'ils appellent le métaverse. On avait déjà discuté un petit peu, Laetitia, et puis on s'amusait. J'y arrive, Laetitia. Le métaverse, qu'est-ce que c'est? C'est la contraction de univers et de méta. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir un monde numérique qui est basé sur la réalité virtuelle ou réalité augmentée. Donc, on oublie Internet, les ordinateurs, etc. On va se projeter dans un autre monde. Et ça se passe par le port d'un casque. Donc, ils changent de nom. Ils vont lancer ce métaverse. Alors, ce qui me fait sourire, c'est que d'un côté, on a Facebook avec toutes les critiques ces dernières semaines ou ces dernières années, même, je pourrais dire. Donc, ça leur va bien de changer de nom. Il y a plein de sociétés qui vont changer de nom pour essayer de rebrander leur image. Et en même temps, il trouve une nouvelle direction où il va être les précurseurs, un petit peu ce qu'on avait connu il y a quelques années, Second Life et compagnie. Donc, on va voir où ça va aller. Je suis assez sceptique parce que finalement, porter des lunettes, c'est quelque chose qui est assez lourd. Je ne suis pas certain que les usages sont là, mais Facebook en parle partout. Tout le monde a utilisé ce mot-là depuis quelques semaines. Et puis, on va voir où est-ce que ça va aller. Je suis assez sceptique, mais bon, en général, je me trompe toujours dans mes prévisions. Donc, dans quelques années, on fera un podcast avec le cast.
Exactement.
Laetitia, tu avais aussi une news what the fuck ?
Bah oui, mais ça concerne aussi le groupe Facebook. Moi, je vais vous parler d'Instagram qui va bientôt vous inviter à arrêter de scroller ou en tout cas à vous inviter à faire une petite pause dans vos scrolls. Voilà, donc après vous avoir incité à passer beaucoup de temps dessus et à scroller et pour les commerçants à faire du sponsoring et à passer beaucoup de temps dessus, bah maintenant on va vous dire bon, allez, stop. Donc ça va se matérialiser par des petits pop-up qui vont venir et qui vont vous dire vous avez passé beaucoup trop de temps sur Instagram ou alors vous avez regardé souvent le même type de contenu, on vous invite à regarder un autre type de contenu. Bref, l'idée c'est de... Alors, je ne sais pas si vraiment l'idée c'est de diminuer sa consommation sur Instagram, mais peut-être de la varier. Donc voilà, ça me fait doucement rire.
Tu penses que ça va dans la bonne direction ou pas ?
Non, bah, pas du tout. Je pense que c'est une autre manière bien détournée de nous faire passer beaucoup plus de temps sur la plateforme.
Sur la plateforme.
Donc en fait, Instagram ne va pas nous inviter à passer beaucoup moins de temps, elle va nous inviter à passer du temps différemment. Et tu viens de parler des métaverses, bah, pourquoi pas se diriger sur des métaverses ?
Et enfin, la news inutile dont on s'emballait. Laetitia, cette semaine, c'est toi qui avais une news inutile.
Instagram prend vraiment cher avec moi cette semaine. Eh ben, c'est Instagram qui a déjà banni, en tout cas, ça s'est produit aux États-Unis, qui a banni des comptes de mèmes. Alors, nous, avec Henry, on adore les comptes de mèmes. En tout cas, dans la Startup Nation, il y en a énormément. Et il y a certains comptes aux États-Unis qui ont déjà été bannis.
Et tu penses que ça aussi, c'est une bonne chose ?
Parce que
tout le monde utilise des mèmes,
j'ai l'impression que ces réseaux sociaux, bon là on va peut-être un petit peu dériver, mais qu'il y a énormément de censure. Je ne vais pas revenir sur les certaines photos. On peut voir des seins qui vont être censurés. À l'inverse, un homme ne va pas être censuré. Ou alors des nanas qui allaitent, des mamans qui allaitent, qui sont censurées. Bref, je me demande où toute cette censure va aller. Et moi, je suis une grande fan des mèmes. Et s'il y a bien des espaces où on a cru avoir une certaine liberté d'expression, c'était sur les réseaux sociaux. Mais on se rend bien compte que non.
J'allais y arriver. Je pense qu'il y a deux aspects. Le premier, c'est que ça ne se transforme pas en Reddit ou des 4chan et compagnie. Donc ça peut être louable. Ils veulent un peu rehausser le niveau. Encore qu'on pourrait critiquer ça. Et la deuxième, j'ai vu ça à Cuba où justement les opposants, ils utilisent les mèmes pour critiquer le gouvernement. On avait vu ça aussi en Chine. Donc c'est aussi une manière de jouer sur l'humour. Mais bon, est-ce que c'est la raison pour laquelle ils...
Oui, mais dans le même temps, on t'invite à faire des pauses sur Instagram et en même temps, on te dit qu'on va bannir ton compte. Bon, tout ça est une...
C'est toujours compliqué de comprendre bien les règles. Quoi de neuf chez nous ? Quoi de neuf chez nous ? Bah, c'est la rubrique où on parle de nous. On raconte un petit peu qu'est-ce qui s'est passé chez nous depuis la semaine dernière dans le monde de l'e-commerce et dans notre vie. Laetitia, qu'est-ce que tu as de palpitant à nous raconter ?
De palpitant, de génial, de super excitant, de brillant. Eh bien, cette semaine avec Adrien, on a co-rédigé la newsletter T-Rex. T-Rex, je vous le rappelle, on l'avait déjà recommandé. C'est la newsletter de PayPal, qui est un prestataire de paiement. Et PayPlug, toutes les semaines, tous les mercredis à 14h ou à 14h30, ou en tout cas c'est avant 15h, vous propose une newsletter qui décrypte, bah, comme nous, l'actualité sur un ton complètement décalé. Donc, quand on nous a proposé cette collaboration, bien évidemment qu'avec Adrien, on a dit « mais oui, on y va ». On a choisi un sujet qui nous tient à cœur. D'ailleurs, bah, vous le voyez dans les news qu'on sélectionne, c'est la seconde main. Et on s'interroge sur toutes ces grandes marques. Là encore, on vient de parler de Leroy Merlin, de The Couples, qui décident d'avoir leur propre plateforme de seconde main. Mais quid des autres ? Quid des plus petites marques qui, elles aussi, ont leur part à prendre sur cet énorme marché ? Comment ça se passe quand on n'a pas trop les moyens d'avoir une plateforme de seconde main ? On a parlé de plein d'autres choses aussi. On a parlé de Dark Kitchen, on a parlé de plein de trucs. Donc, je vous invite à vous inscrire à cette newsletter. Et puis voilà.
Et donc, T-Rex, c'est la newsletter de Payplug. Ils sortent chaque semaine, c'est ça ?
Oui, c'est ça, tous les mercredis.
C'est commun d'avoir des invités, parce qu'ils avaient fait ça aussi avec d'autres personnes. C'est commun d'avoir
alors
des invités.
Alors, la collaboration, oui. En fait, on prend les manettes et on co-rédige.
Il y a plein de newsletters qui font ça ?
Bah oui, c'est assez... Okay.
Mais quelques newsletters que je suis, j'ai jamais vu ça.
Alors attends, non, dans le secteur, moi j'en ai jamais vu.
Et voilà, on est d'accord.
En revanche, dans d'autres newsletters un peu mode et tout, oui, ça arrive très souvent. C'est un peu un système de collab, quoi.
Ouais, je trouve ça amusant.
Mais après, dans notre secteur, non. C'est la première fois et c'est pour ça que moi, j'ai dit à Adrien, vite, on le fait, on saute dessus. Bah écoute, comme vous savez, nous sommes des précurseurs.
Et ça a été publié cette semaine. Vous pouvez toujours vous inscrire et le suivre.
Et de toute façon, on vous met le lien dans la description de cet épisode.
Laetitia, moi, de mon côté, bah écoute, je me suis acheté le nouveau Google Pixel. C'est le nouveau téléphone. Et pourquoi j'en parle ? Parce que en fait, le process d'achat, bah tu achètes en 3 clics, quoi. Donc c'est vraiment tellement simple quand tu vas sur le store Google. Tu vois le produit. Je vous invite, même si vous n'allez pas jusqu'au bout, à essayer le process d'achat. Et j'ai trouvé ça très plaisant.
Tu l'as reçu déjà ?
Non, c'est en précommande. Tu le reçois début novembre. Mais en tout cas, le process d'achat, il se fait vraiment en 2-3 clics. Pour peu que tu aies déjà un compte Google, que tu aies tes informations, que j'utilise Google Pay et j'ai un Android. Donc, tout est déjà enregistré. Je trouvais ça vraiment super, super fluide et simple pour un achat qui est, je crois, 650 euros, le modèle que j'ai pris. Donc, c'est pas rien.
Ah, j'ai une question sur le paiement. Alors, le paiement plusieurs fois est proposé. Le buy now pay later est proposé. Comment ça se passe?
Ouais, alors
on est sur, comme tu dis, c'est un machin lourd.
Ouais, il y a peut-être du. Enfin, moi, je suis pas un grand fan en tant que consommateur du paiement fractionné, donc je l'utilise pas. Je crois que je l'ai vu, mais en fait, je suis même pas certain parce que j'ai cliqué très vite, donc j'ai pas fait attention. Peut-être qu'il est proposé, mais je suis pas certain, Laetitia. Autre chose qu'on voulait parler, c'est la semaine prochaine. On l'avait déjà dit, on sera à One to One Monaco dans le cadre des boîtes pour lesquelles on travaille respectivement, et on aura également une prise de parole. Donc, on va essayer de hacker l'événement. On va essayer de faire des petits jeux, de faire gagner des choses. Donc, si jamais vous êtes dans le coin, trouvez nos noms, essayez de trouver la salle où est-ce qu'on va être. Je crois que c'est mercredi après-midi et ça sera assez amusant de vous y voir.
Moi, je veux juste rajouter un petit peu que l'événement, ce que c'est, l'événement One to One Monaco, c'est un événement annuel qui a lieu tous les ans normalement au printemps à Monaco, et c'est vraiment un rendez-vous ultra quali où les solutions e-commerce rencontrent des marques et des retailers, et ça se passe en forme de One to One, d'où le nom One to One Monaco. Donc en gros, on réserve des créneaux et on est obligé de faire des meetings. C'est hyper quali, ça n'a rien à voir avec les autres salons qu'on peut faire, c'est pas une grande foire, et effectivement c'est sûr, on va interviewer pas mal de solutions qui seront présentes, et on va essayer aussi d'avoir quelques marques.
Dernière chose que je voulais partager, c'est vrai qu'on parle souvent dans le podcast à l'audio qu'on fait des lives. En fait, les lives, ils sont tous les vendredis à midi. Donc là, la semaine prochaine, on le fera pas. Et puis après, il y a les vacances. Mais en général, si vous voulez nous suivre sur LinkedIn ou sur YouTube, sur la chaîne Le Café de l'e-commerce, vous pouvez noter ça dans vos agendas quand on n'a pas trop de retard. C'est en général entre midi et midi 35, quelque chose comme ça. Donc on vous invite à vous connecter ou à nous suivre sur ces réseaux, parce qu'on va alimenter de plus en plus ces chaînes.
Breaking news, les big news que tu ne lis pas, on les analyse pour toi, on en parle et on en déballe tous en langue de bois. Et cette semaine, Adrien veut nous parler d'un truc de malade mental. Tu veux nous parler de la...
J'aime bien quand tu utilises. On va commencer par un petit acronymateur. Laetitia, DGCCRF.
Tu l'as déjà fait dans l'épisode 48,
sûrement,
machin.
Sûrement.
C'est sur la répression des fraudes. J'ai pas exactement... Mais
ah
c'est...
non, tu l'as pas
Non, mais c'est sur la répression des fraudes, ça je le sais, mais j'ai pas le...
Alors,
le,
c'est
le...
Direction Générale de la Concurrence, et je regarde mes notes, c'est de la consommation et de la répression des fraudes. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont analysé 10 marketplaces. Donc, ils font, je crois que c'est la troisième fois qu'ils le font. Ils l'ont fait en 2018, 2019 et 2020. On a les résultats maintenant de l'étude qui a été faite en 2020. Je vais te lister les marketplaces qui ont été analysés. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont acheté des produits, ils ont regardé la conformité de ces produits, et puis ils ont essayé de comprendre est-ce que ces produits sont conformes aux lois françaises. Ils ont regardé quels marketplaces, ils ont pris les plus connus. Donc ça, c'est plutôt cool, c'est qu'on retrouve l'ensemble des marketplaces sur lesquels on a l'habitude d'acheter: AliExpress, Amazon, Cdiscount, eBay, Fnac, Joom, Rakuten, Rue du Commerce, Vova et Wish. Il y a que Vova que je connais.
Non, moi non plus, je connais pas. Maintenant, je vais te demander. Ouais, si c'est pas un truc polonais ou...
Tout de suite, qu'on ne connaît pas, c'est loin, c'est polonais. Franchement, ici, ça...
Mais tu les connais par cœur, t'as les marques.
Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté 129 produits en 2020. 129, c'est le nombre de produits qu'achètent les tiers en une semaine, pour donner une idée. Donc, je trouve que c'est pas en termes de volume, c'est pas
énorme.
C'est pas énorme, surtout que tu dis que tu fais ça pendant un an. Donc bon, ils ont acheté 129 produits sur ces marketplaces et ils se sont rendus compte, après, si tu fais 129 produits par marketplace, ça fait 129 fois 10, et là, c'est tout de suite, c'est plus important.
C'est un peu plus conséquent.
Ils se sont rendus compte d'une chose, et moi, ce chiffre, moi, il m'a assez étonné, Laetitia, c'est que 60% des produits qu'ils ont achetés sont non conformes. 32%, donc dans ces 60%, tu as 32% qui sont non conformes et dangereux. Et dangereux, c'est avec des petites pièces que tu peux t'étouffer ou tu peux t'électrocuter, tu peux mettre le feu à ta maison, etc.
En tout cas, donc, ça te met en danger.
Donc, c'est vraiment quelque chose, on rigole pas. Et on va en discuter dans une seconde pour voir les produits. Et 28% sont non conformes, sans danger. Le non conforme sans danger, ça peut être, on ne sait pas trop d'où ça vient, qu'est-ce qu'il y a dedans, ou il y a des choses qui sont pas correctes. En regardant un peu plus près là, dans ces 128 produits, il y a quelques catégories sur lesquelles il y a particulièrement beaucoup de faux ou de produits non conformes. Dans les jouets, tu as 25% de produits dangereux. Dans les guirlandes électriques, ça fait sourire 66%, mais tu peux avoir choc électrique et incendie. Donc là, ça fait moins sourire. Adaptateur électrique, je pense abusé. Adaptateur, 88%, Laetitia, 88%. Ma maison va cramer là, j'achète ça
le
tout le temps.
Le studio va cramer.
87% dans les adaptateurs électriques. Et là, pareil, on parle de choc électrique et d'incendie. Et enfin, les bijoux fantasy, 74%, ça a sûrement te parler parce que ça contient des métaux lourds, cancérogènes et toxiques.
Oh là là, mettons un rapport, il fait peur.
Ah ouais, non, c'est flippant. Quand on a vu ça, quand j'ai vu ça,
on connaît la provenance de...
Alors, c'est une très, très bonne question. Justement, la provenance, ça fait partie justement d'une des choses qu'ils ont regardées. Et quand ils regardent un petit peu la traçabilité, tu as 20% des produits qui sont de... on ne sait pas d'où ils viennent. Et 40%... Non, pardon, 20% des produits sont de Chine. Et 40%, tu ne sais même pas d'où ils viennent.
Ah ouais.
Donc, tu vois, quand on parle de traçabilité, si on ne sait même pas d'où viennent les produits, ça, on se pose des questions. Alors, j'aime bien une quote, une citation de la DGCCRF. C'est « Il est complètement anormal que l'on puisse encore trouver des produits sur des places de marché en ligne non conformes à ce que nous exigeons dans le commerce physique. » Ces situations sont inacceptables et doivent être traitées avec force. Ce sera l'un des enjeux de la présidence française de l'Union européenne. Coup de pression, ça blague pas. On sent qu'ils ont pris.
Mais qui est responsable dans ces cas-là? La plateforme, la marketplace?
Alors justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils ont besoin de la marketplace pour collaborer, pour savoir un petit peu comment est-ce que ça se passe. Dans le rapport, ils expliquent que la plupart des marketplaces, elles sont ouvertes, elles collaborent. Donc quand elles demandent des explications, plus d'informations sur tel vendeur ou sur tel produit, ils collaborent. Donc il y a une certaine réactivité des marketplaces. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais elles sont plutôt là à collaborer. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Augmenter les contrôles des marketplaces sur les produits qui sont vendus, mais on sait que c'est compliqué. Filtrer peut-être les sellers ou leur demander des règles particulières. Mais tout ça, c'est assez compliqué. Mais si on se dit les lois françaises, il y a des lois françaises, il faut appliquer les règles nationales, le produit est interdit, enfin ne devrait pas être vendu en France.
Enfin, c'est comme la fiscalité, hein. Il y a des règles
justement.
Fiscales en France.
Alors ça, c'est autre chose. Le rapport ne parle pas du tout de tout ce qui est TVR. On en a déjà beaucoup parlé. Ça, c'est encore autre chose. Donc quand on regarde ça, c'est vraiment en termes de produit, est-ce qu'il est conforme ou non, est-ce qu'il y a des risques à utiliser ce produit, des petites pièces, etc. Déjà, c'est assez catastrophique le rapport. Et si en plus on le met en parallèle avec tout ce qu'on avait expliqué autour de la TVA ou des boîtes qui déclarent pas la TVA, etc. Ça complexifie. Enfin, ça jette encore de l'huile sur le feu. Écoute, c'est pas glorieux ce rapport. Je comptais m'acheter un congélateur. Je vais attendre un petit peu ou je vais essayer d'aller plutôt dans la boutique du coin.
Amazon, qu'on aime ou qu'on déteste, Amazon est dans le shopping game et continue à imposer son style. Que vous soyez marque, vendeur ou juste consommateur, l'Amazon fait le point sur les actualités chaudes d'Amazon.
Il y avait deux choses, Laetitia, que je voulais te partager cette semaine. Parce que tu sais, on est dans le café de l'e-commerce, on prend un petit café, je te parle qu'à toi. et je pense que ça va t'intéresser. La première, c'est il y a un événement qui a eu lieu il y a quelques jours, c'est Amazon Accelerate. C'est un événement virtuel sur deux jours qui touche tous les vendeurs sur Amazon. Et tu sais, bon, c'est comme tous les vendeurs, enfin toutes les solutions qui ont qui ont une solution e-commerce, qui vont essayer de t'expliquer comment mieux vendre, comment mieux utiliser les outils, etc. Donc tu restes dans la galaxie Amazon, c'est comment mieux utiliser la publicité, comment mieux faire une page produit, comment mieux engager avec ta communauté, etc. Donc il y a plein de conférences, elles sont toutes disponibles en replay, c'est en anglais, je vous invite à le regarder. Il y a une annonce qui a été faite lors de cet événement, c'est une initiative qui s'appelle Local Selling on Amazon. Et en fait, l'idée, c'est de vendre localement. Je trouve que c'est très intéressant. On va voir s'ils vont y arriver, mais je trouve que c'est quelque chose qui est assez intéressant. L'offre, c'est quoi? Enfin, ce qu'ils proposent, c'est quoi? C'est de proposer aux vendeurs de délimiter une zone dans laquelle tu te trouves, une zone géographique, et tu vas pouvoir proposer des services particuliers dans cette zone. Tu vas pouvoir proposer de récupérer le produit directement en magasin ou de livrer de manière extrêmement rapide. On parlait de quick commerce, donc on peut imaginer des choses en livraison en moins d'une heure dans une certaine zone pour une certaine boutique, et ça fonctionne également avec le service. Tu sais, moi, historiquement, Moi, historiquement, il y a deux choses que je reprochais toujours à Amazon, ou en tout cas deux angles sur lesquels on peut attaquer Amazon quand on est une marque. Seconde main, je le mets encore de côté, mais ça serait d'ailleurs une chose. C'est la personnalisation et l'aspect local. Personnalisation, Amazon n'a jamais été très bon pour personnaliser les produits parce qu'ils sont ils vendent des volumes et c'est difficile pour eux de faire ça. Ils n'ont jamais vraiment réussi, même s'ils ont essayé. La deuxième chose, c'est le côté local. Et en plus, si tu te souviens, Laetitia, on en discutait à un moment donné quand brainstormait de plein d'acteurs qui pouvaient se lancer. On disait un Amazon local, ça serait quelque chose de très intéressant. Demain, j'ai ma pharmacie qui est sur Amazon ou mes commerces de proximité qui sont Amazon. Je ne sais pas, je trouve ça intéressant. En tout cas, pour le consommateur, ça peut être intéressant. On enlève la discussion de Amazon, le grand Amazon, etc., qui va tout centraliser. Mais j'ai trouvé cette offre. Est-ce que ça va décoller? Est-ce que ça va juste rester aux États-Unis? Est-ce que les marques, est-ce que les vendeurs vont l'utiliser? Je ne sais pas, on le verra bien. Mais je trouvais c'était une direction intéressante. Qu'est-ce que tu en penses, Laetitia?
Non, je pense que c'est effectivement une des directions qu'Amazon devrait prendre. Et en même temps, je ne peux pas m'empêcher de me dire mais c'est complètement contre-productif pour un géant qui n'a qu'une seule obsession dans la vie, c'est de vendre en masse partout dans le monde, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Quand tu fais du local, tu as déjà beaucoup plus de restrictions.
Si ce n'est pas Amazon qui le fait, s'ils sont juste justement en marketplace et qui disent tu te débrouilles.
Oui, mais Amazon qui te dit tu te débrouilles. Non, Amazon ne te dira jamais ça. Amazon prendra dans le truc et dira tu vas te débrouiller comme moi j'ai décidé.
Ouais, ou alors ils vont te proposer la plateforme technique. Je sais pas, moi je trouve que justement ils ont beaucoup à apporter.
Mais effectivement, ça, je pense que c'est une opportunité de malade sur du commerce très local.
Il faut juste se dire, est-ce que ces commerçants locaux ils vont se dire oui ok j'y vais ou est-ce qu'ils auront une autre solution?
Tu sais, c'était comme à l'époque les commerçants locaux, est-ce que je fais du référencement sur Google et j'ai ma petite page Google My Business. Je pense que c'est plutôt une démarche d'éducation qu'il faut avoir sur ces marchands là et du coup comme Google a réussi à le faire, je pense que, ou même Shopify tu vois, pour développer son site très facilement, on l'a vu pendant le Covid, Amazon peut aussi très bien le faire, mais alors avec une approche vraiment éducationnelle qu'Amazon n'a pas du tout.
Ouais, mais si, moi je le vois dans quelques années, si ça arrive en France et que la promesse est, on sait où tu habites quand tu te connectes et on te dit, voilà tous les produits qu'on peut te proposer à moins d'une heure. Tu te dis, tu aides le commerce local, en plus tu le reçois très très rapidement si on veut le recevoir le produit presque instantanément. Je sais pas, je trouve ça intéressant. Après, il y a une grande différence entre les initiatives qui sont lancées et la réalité. Est-ce que ça va fonctionner? Donc on suivra ça dans un an. On va faire un retour vers le futur, dans le passé, et puis on regardera dans un an s'il y a eu quelque chose. La deuxième news, elle est un petit peu liée, Laetitia. C'est Amazon c'est un rapport qui met en avant le fait qu'Amazon Logistique est troisième transporteur aux États-Unis. Le numéro un, c'est la Poste États-Unis, c'est USPS, qui a une grosse avance et qui est plutôt flat. Le deuxième, c'est UPS qui commence à perdre des parts de marché. FedEx qui perd des parts de marché également, et Amazon. Donc tu as un, la Poste USPS, deux, USPS, trois, Amazon qui vient de passer justement troisième, et quatre, FedEx. Et je suis certain que dans quelques mois, Amazon va passer deuxième, parce que quand tu regardes les courbes, elles vont se croiser dans quelques mois.
C'est ce que j'allais te dire. Avant, ils devaient être 4-5e et dans très peu de temps, ils sont deuxième.
Exactement. Donc, écoute, c'est plutôt.
Après, j'aime bien rappeler que Amazon est un logisticien à la base.
Et oui, Laetitia.
Et oui, je le dis très souvent. Entre autres.
Faut pas l'oublier.
Retour vers le futur, c'est la rubrique où on fait un bond d'un an en arrière. On confond un peu tout ce qu'on a raconté. Parfois, c'est des bêtises. Parfois, c'est la réalité. De quoi est-ce qu'on parlait le 22 octobre dernier, Adrien?
C'était le 22 octobre 2021, on enregistrait, c'était l'épisode 56. Et en fait, contrairement à 2020, correct, Laetitia, l'année dernière, c'était une petite semaine. Il n'y avait pas énormément de news, contrairement à aujourd'hui, enfin cette semaine où il y a énormément de grosses news. Donc, on recevait Chloé Gonsalves qui nous parlait du marché chinois et qui nous expliquait un petit peu comment Tmall fonctionnait. Tu as Carrefour qui personnalise son alimentation sur son site. Tu as Ikea qui a investi 250 millions d'euros en ligne. C'est pas mal ça. Ikea, l'année dernière, ils annoncent qu'ils vont investir en ligne 250 millions.
Et là, ils annoncent.
Donc, ils le savaient, la croissance.
Si on concorde toutes les news.
En tout cas, ils le savaient l'année dernière qu'ils étaient en train d'exploser en ligne et qu'il fallait investir. Et là, les chiffres leur donnent raison et on comprend mieux pourquoi ils avaient fait ces annonces, parce que ça devient stratégique pour eux et ils sont en grande croissance en ligne. On parlait de la mode, en tout cas, on en parlait beaucoup l'année dernière, le Shopping Shop. Mm-hmm. C'est Decathlon qui s'installait dans Auchan, mais tu avais plein de marques comme ça qui faisaient des alliances et qu'on retrouvait dans des corners. Et enfin, tu avais Castorama qui annonçait un moteur de recherche visuel sur son site e-commerce. Voilà, c'était un petit vendredi, un petit podcast amusant.
Un petit vendredi.
Tranquille.
Tranquillou.
Avec des petites cacahuètes.
Qu'est-ce que tu me racontes là ? C'est la nouvelle rubrique qu'Adrien a décidé de mettre en place et que j'ai validée bien évidemment. Qu'est-ce que tu me racontes là ? C'est une rubrique où on va aller décortiquer une rumeur. Et cette semaine, il y a une grosse rumeur qui enfle, qui prend vraiment beaucoup d'importance. Il s'agit d'un dinosaure du paiement et d'un réseau social qui pourrait être racheté par ce dinosaure.
C'est une rubrique qui me tenait à cœur parce qu'il y a, en général, j'aime pas commenter quand c'est pas confirmé, mais il y a tellement de choses qui sont presque confirmées. Donc on s'est dit, ça serait intéressant quand même de les couvrir parce que tout le monde en parle. Et paradoxalement, on n'en a pas une, mais deux rumeurs aujourd'hui. La première, effectivement, ce que tu dis, Laetitia, pour le dinosaure. Alors le dinosaure, c'est qui ? Parce que c'est méchant de dire que c'est un dinosaure. C'est PayPal.
PayPal, oui, pour moi, c'est un dinosaure. Okay. Du paiement et c'est absolument pas péjoratif. Alors, c'est très bien d'être un dinosaure et d'exister encore alors que c'est la jungle le paiement.
Ouais, enfin PayPal fait partie de ces sociétés comme Microsoft que je trouve qui continuent vraiment à innover et pour le coup ils sont là depuis un certain moment. Je crois que ça fait plus de 20 ans. PayPal c'est quoi 98 il me semble.
98.
Et pourtant ils continuent à faire de la com. Donc c'est quoi la rumeur ? On y arrive. Et ben PayPal propose de racheter Pinterest pour 45 millions de dollars. C'est des gros montants, mais c'est des très gros montants même pour PayPal. Alors, qu'est-ce qu'on... Donc, c'est une rumeur, mais qui semble se confirmer. A priori, on aura dans quelques jours la confirmation et on couvrira ça de nouveau. Qu'est-ce que ça nous apprend ? Déjà, Pinterest, ils ne sont pas profitables. En tout cas, en début d'année, ils avaient des signaux, parce qu'ils avaient bien profité de l'année dernière, qui allaient vers la profitabilité. Donc, on peut imaginer qu'ils seront profitables, mais ils ne gagnent toujours pas d'argent. Pinterest, ils sont, c'est un réseau social. D'ailleurs, que tu connais bien, Laetitia, tu utilises Pinterest ?
Oui, j'adore Pinterest. Ouais, c'est un de mes réseaux sociaux préférés.
J'ai jamais compris comment ça fonctionne.
Il est là. Ouais.
Et ce qui me stresse, c'est que tu peux pas choper les images. Tu vois, clic droit, donner l'image, c'est impossible. Enfin, il verrouille tout. Donc, j'ai jamais réussi à comprendre comment.
Tu peux juste télécharger
comment...
l'image. Adrien.
Non, t'es sûr ?
Je suis certaine.
T'es sûr ?
Je suis certaine. Ma fille, je lui télécharge 20 images par jour.
Ok. Donc, faudra peut-être que je m'apprenne à utiliser Pinterest. Mais j'ai jamais réussi à vraiment me mettre dedans où je trouve pas l'intérêt. En tout cas, ce qui est amusant, c'est que tu sais, quand t'es un consommateur, tu vas souvent sur des réseaux sociaux pour essayer d'avoir l'inspiration, pour trouver ce que tu voudrais acheter ou même pour être influencé. Et Pinterest, il est vraiment là. Dans cette étape où tu vas chercher, tu vas confronter, tu vas avoir des idées, etc. On a tellement parlé de tu veux refaire ta maison, tu veux
c'est l'étape d'avant achat,
exactement, d'inspiration. Donc ça pourrait être très séduisant de se dire que dans cette étape-là, on va proposer du paiement et peut-être un paiement en un clic avec PayPal par exemple, qui a tes informations. Quand tu as un compte PayPal, ils savent où tu habites, ils savent tes informations bancaires, donc tu pourras acheter en un clic. PayPal, ils essayent depuis pas mal de temps d'aller vers le social shopping. Et cette brique-là, ça pourrait vraiment les aider justement à avoir une vraie empreinte sur ce secteur-là. Ils ne sont jamais cachés, PayPal, de vouloir être une super app. Alors, tout le monde l'utilise à tort et à travers ce terme, mais je pense que c'est encore plus légitime quand soit tu es un réseau social ou tu es une plateforme de paiement, parce que tu drives énormément de choses. Avoir les deux, donc gérer le paiement et en même temps avoir cet aspect social, si tu rajoutes en plus du conversationnel ou des choses qui peuvent être plus interactives, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être très séduisant pour les consommateurs. Et puis PayPal, ils ne sont pas réveillés pour se dire on va racheter Pinterest. Ça fait déjà depuis plusieurs mois et on l'a couvert. Qu'ils ont racheté, je crois, l'année dernière, ils avaient racheté Oni. Tu sais, c'est l'extension qui te permet d'avoir des bons. Et là, tu récupères plein d'informations sur les consommateurs. Ils ont racheté Happy Return il y a quelques mois, il me semble. C'est dans toute la gestion des retours. Donc, on est dans le post-achat. Et ils ont racheté une boîte il y a pas longtemps, Paydi au Japon, qui fait le paiement fractionné. Donc on se rend compte de quoi ? Si la data c'est le nouvel or noir, et ben Pinterest c'est une mine d'or. On comprend pourquoi PayPal veut investir, veut l'acheter. PayPal il continue sa croissance via des acquisitions, parce que la croissance organique à un moment donné quand on devient grand ou quand on est un dinosaure c'est plus compliqué. Et moi je suis toujours obsédé, Laetitia, on en parlait il y a deux semaines je crois, par le customer journey, le cycle de vie du consommateur et toujours les solutions, où est-ce qu'elles se situent dans ce cycle de vie. Et si tu regardes PayPal, ils étaient à un moment donné où ils sont dans le paiement, ils ont des choses qui sont dans le post-achat, ils ont des choses qui sont dans avant achat. Et plus tu contrôleras le customer journey de bout en bout, et plus tu auras des informations, tu pourras mieux le cibler, tu pourras offrir des meilleurs services. Donc je trouve que c'est un move qui est intéressant. Si ça se fait, je pense que c'est une bonne chose. Et puis je vois ça de manière positive. Mais bon, je suis pas utilisateur de Pinterest. Toi, Laetitia, qu'est-ce que t'en penses ? Tu penses que c'est bien ou pas ?
Moi, je pense que tout l'ensemble des réseaux sociaux galèrent pas mal au niveau du social commerce. Pendant très longtemps, on s'est dit ça va être vraiment l'eldorado. On va pouvoir vendre, acheter sur les réseaux sociaux. Alors c'est vrai, mais on voit qu'il y a des réseaux sociaux qui sont plus à la traîne que d'autres, et notamment Pinterest. Et en réalité, moi, ça me va très bien d'ailleurs que je puisse pas acheter sur Pinterest, parce que c'est pas comme ça que j'envisage cette plateforme. Mais tout ça pour dire que c'est pas plus mal qu'il y ait enfin un gros acteur qui rachète un gros réseau social et qui réussisse à percer. Moi, j'attends que ça perce et qu'on puisse acheter, vendre, faire tout ce qui est possible sur un réseau social et correctement. Parce que ça existe sur des réseaux sociaux, bien évidemment, mais bon, il y a toujours des petits trucs qui fonctionnent pas.
Et tu sais, Laetitia, tu as toujours été fan de Pinterest. Tu en parlais, tu les défendais quand on expliquait qu'ils étaient peut-être un peu à la traîne, etc. Tu expliquais justement qu'il y avait une opportunité pour les marques et les chiffres te donnaient raison parce que il y a une vraie opportunité pour les marques d'investir. Le taux de conversion est meilleur sur Pinterest que les autres. Ça coûte moins cher également parce qu'il y a moins de personnes. Donc, c'est plus qualifié et puis il y a moins de volume. Mais ils brassent un volume de fou furieux quand même. Donc, on n'est pas en train de dire qu'ils sont en train de racheter un bras cassé. Ils sont en train d'acheter une petite pépite qui est en croissance et qui peut...
Et qui fait du réseau social autrement en plus. Enfin, c'est plutôt un.
Du coup, est-ce qu'il pourrait être le premier réseau social à réussir vraiment le social commerce?
Mais moi, j'espère. Moi, je mets mes billes sur Pinterest.
Ouais, c'est vrai. Bah, écoute, on verra ça.
Bah, je pense que c'est le plus avancé, en tout cas. Bah, y a quand même TikTok qui est pas mal de ce que je regardais là en préparant l'émission. Mais après, ça reste aussi un réseau social différent. Mais je vois par rapport aux dinosaures, parce que Instagram et Facebook, ça reste des dinosaures du réseau social. Hein,
dinosaures, c'est le mot que tu as laissé
placer dans les... C'est mon mot préféré en ce moment, depuis que j'ai rédigé T-Rex. Mais voilà, go Pinterest et go PayPal.
Deuxième rumeur, c'est Richemont qui s'apprête à se séparer ou qui envisagerait de se séparer de YNAP. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, Richemont, c'est un grand groupe basé en Suisse qui détient énormément de marques. Ils ont racheté, je crois, en 2018 YNAP. YNAP, c'est Yoox Net-à-Porter. Donc, pour la petite histoire, Yoox, c'est une marketplace ou un acteur italien qui s'est rapproché de Net-à-Porter, qui est plutôt anglais. Ils sont rapprochés, ça a créé le groupe Yoox Net-à-Porter, YNAP, YNAP. Faut voir YNAP, Yoox, c'est un site qui vend en B2C, tu peux acheter beaucoup de marques, et qui vend également qui a une solution en B2B qui permet de faire de la délégation e-commerce. C'est un modèle il y a 10 ans qui était très populaire parce que ça permettait aux marques de se lancer rapidement, et puis même s'ils n'ont pas les ressources en interne, ils peuvent déléguer ça justement et laisser la gestion à un acteur tiers. Le problème, c'est que l'histoire n'aura pas donné raison, parce que le modèle de délégation, c'est quelque chose qui est très difficile.
Déjà, tu n'y crois pas, rappelle-le que tu n'aimes pas ce modèle-là.
Ouais, j'ai pas de conviction, mais regarde, ils sont tous cassés à la figure. Après, on dira, oui, cet acteur-là, il existe toujours, mais bon, j'y crois pas du tout. Il y a autre chose, c'est que Yoox, c'est une boîte techno. Ils ont la culture de l'interne. Pour avoir bossé avec eux, ils ont beaucoup d'ingénieurs. Ils aiment développer, c'est des techos, donc ils sont très bons pour la vente, mais ils aiment bien aussi développer leur propre brique. Et à côté de ça, tu as un Richemont qui aime bien tout contrôler. Et pareil, pour avoir travaillé avec Richemont, c'est les décisions, même si ce sont des marques qui sont en France, en Angleterre ou en Italie, ça va remonter au siège et ils vont vouloir bien avoir un stack commun pour tout le monde. Ce qu'on comprend dans des grands groupes, mais tu sais, il y a toujours les groupes qui sont plus décentralisés, qui vont donner la main aux marques pour pouvoir innover, prendre des décisions, etc. Et les autres qui vont centraliser. Et Richemont, on est plutôt dans la centralisation. Le concurrent, c'est Farfetch. Richemont semble convaincu que ça y est, c'est plié, qu'il y a Yoox Net-à-Porter versus Farfetch. Farfetch a pris de l'avance et puis ça va être difficile pour Yoox Net-à-Porter de revenir dans le game. Et puis il y a quelques mois, on en parlait, il y a eu une alliance pour la Chine, une joint venture. Tu avais Richemont, Kering, Alibaba et Farfetch qui s'étaient unis. Donc on l'avait cité en plus, on s'était dit c'est chelou, t'as Richemont qui se met avec Farfetch alors qu'ils ont eux-mêmes Yoox Net-à-Porter, c'est concurrent, c'est bizarre. Donc là, en fait, on est en train de se rendre compte que ils doivent pas gagner d'argent avec YNAP. Ils sont en train de se dire on va se séparer de cette brique là et puis on va investir avec Farfetch ou avec d'autres acteurs. Donc voilà la rumeur. Moi, pour avoir travaillé avec eux depuis des années, ça me fait un petit pincement au cœur parce que c'est des acteurs que je connais bien. J'espère que ça va bien se passer pour Yoox Net-à-Porter.
Ben voilà, c'est le mot de la fin. On pense à vous chez Yoox Net-à-Porter.
Le café du cœur, c'est la rubrique où on donne un coup de pouce. On les donne tous les deux, on peut le dire à un ou à deux. On donne un coup de pouce à une personne qui nous a sollicité, quelqu'un qui avait besoin d'aide. On l'avait pas mal fait l'année dernière parce qu'il y avait beaucoup d'entraide dans la communauté. Et cette semaine, Laetitia, tu voulais donner un coup de pouce à qui ?
À Christian. Christian, qui a le site e-commerce de vente de fournitures d'espace vert qui s'appelle, je vais plus le nom à Neoverda. Donc, bon, ça reste de la jardinerie, B2B, B2C, espace vert, outils, voilà. Ça marche plutôt bien et Christian a décidé de se lancer sur, sur une marketplace avec Origami, qu'on connaît. Ouais. Et il est à la recherche de son ou de sa responsable marketplace. Le poste est basé à Lyon et en gros, bah, il faut l'aider à définir la stratégie de développement commercial et marketing et puis toute la déclinaison opérationnelle de la marketplace. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, contactez-nous directement et on vous partagera l'offre d'emploi.
Donc, c'est quoi le titre du poste ?
Responsable Marketplace.
Responsable Marketplace, oui. Ok. Bah donc, il faut le contacter, on mettra son LinkedIn ou on fait comment pour
non,
le contacter ?
Nous contacter directement et je vous partagerai l'offre d'emploi détaillée.
Vous avez tous les liens dans les commentaires de l'émission pour
et je rappelle, l'entreprise, c'est Neoverda.
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 Ok, super, on ne peut pas se tromper.
Reco micro au micro, on fait notre co, écoutez la Guilico Presto et enfin n'oubliez pas de retrouver toutes nos recos qui sont toutes consolidées sur notre page Notion qui est dans le lien dans la description de cet épisode.
Yes.
Adrien, ta reco de la semaine ?
Aujourd'hui, je me suis transformé en Adrien Lamary, c'est-à-dire que je t'ai fait une recommandation qui est
newsletter ?
Non, pas du tout. C'est une recommandation que tu aurais pu faire. En tout cas, je trouvais intéressant. Alors, peut-être que tout le monde est au courant et je débarque sur Terre. Donc, je suis désolé si vous le connaissez, si vous le connaissez déjà. C'est l'index List LYST. Est-ce que tu connais ?
Oui, je connais. Je te laisse en parler.
Moi, je ne connaissais pas du tout. Donc, apparemment, c'est super connu. C'est un index qui va lister les marques et articles de mode les plus populaires. Ils prennent des informations en ligne, des rapports, ils combinent tout ça, les recherches sur Google et puis ils te mettent les marques les plus populaires. Les plus populaires, ça veut dire également celles qui ont le plus buzzé pendant le trimestre. Ils font ça chaque trimestre parce qu'ils ont fait une campagne particulière ou parce qu'ils ont communiqué ou parce qu'il y a eu un défilé ou ce genre de choses. Et je trouve que c'est super bien fait, c'est propre, tu as un rapport par trimestre et tu vois les marques et tu as également l'explication pourquoi elles ont tel ou tel score. Donc c'est ma reco de la
semaine. Il y a quelque chose qui t'a marqué
Oui, mais on en parlera dans le jeu.
Ah d'accord, ok,
très bien. Je m'en suis servi justement pour le jeu de tout à l'heure. Et toi Laetitia, quel est ta reco ?
Ma reco, c'est une newsletter pour ne pas changer. Elle s'appelle Le Pourquoi du Comment et c'est Laura Bocobza. Laura Bocobza, c'est une coach. Elle a coaché pas mal de CEO, de founders, de startups qui ont levé des fonds. Et Laura, tous les lundis matins, elle vous propose à 7h30 une newsletter. Et franchement, la newsletter, elle est cool. C'est tout ce que j'aime. Il n'y a pas beaucoup de blabla. Il y a beaucoup de liens. C'est sur un ton hyper décalé. Donc franchement, inscrivez-vous. Vous pouvez aussi la suivre sur Twitter, elle est hyper active sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est ma reco de la semaine, le pourquoi du comment de Laura Bocobza. Elle parle d'innovation, de tech et d'e-commerce.
Super, merci beaucoup Laetitia. Je vais m'inscrire, je vais le suivre.
Ah ouais, inscris-toi. Hey, le panier surprise ! Le panier surprise, c'est la rubrique de fin, celle où on se détend, on s'amuse, on rigole. Adrien est le maître du jeu, il aime bien me mettre la pâtée, mais souvent je gagne et très peu de fois je perds. Adrien, cette semaine, qu'est-ce que tu nous proposes ?
Wikiwaka,
qu'est-ce que c'est que ça ? On n'a jamais brainstormé ce jeu.
On l'avait déjà fait l'année dernière. Alors Wikiwaka, c'était l'idée de trouver une marque avec une description qu'on pouvait trouver sur Wikipédia ou autre. Et là, je me suis justement inspiré de listes.
Mais c'est un cubic.
Non, c'est bien Wikiwaka, Laetitia. Et donc, je vais te donner la description qu'on retrouve sur liste, tu verras. Tu vas comprendre très vite. Et vous pouvez jouer dans le chat ou chez vous. Je te donne la description et tu vas essayer de trouver de quelle marque il s'agit. D'accord ? Tu vas comprendre très vite. Il y en a trois à trouver. Alors, déjà, cette marque, elle est 11e au classement des marques de mode les plus populaires au troisième trimestre 2021. Alicia Keys a présenté l'événement Mondo Genius en 2021. Cette marque a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires de 118% au deuxième trimestre. Et enfin, cette marque a ouvert un deuxième flagship à Milan situé Galleria Vittorio Emanuele II.
Alors, je ne sais pas du tout.
Une marque italienne.
C'est une marque italienne, d'accord. Mais ça ne peut pas être... Alors déjà, j'élimine tout ce qui est maquillage parce qu'elle ne porte plus de maquillage.
C'est peut-être un peu difficile.
C'est du luxe, alors.
Ouais.
Ouais, bon, non, je sais pas, vas-y.
C'est pas vraiment du luxe, mais c'est assez cher. Bah, c'est Moncler. Alors, c'était peut-être un peu difficile celui-ci. Les autres sont plus faciles.
Ouais.
Donc là, c'était Moncler. On passe à la deuxième. Okay. Tu vas voir, c'est plus simple celui-ci. Donc elle est cinquième.
Rappelle, donc du coup, Moncler, c'est la 11e
du classement les plus populaires. Des marques les plus populaires au troisième trimestre 2021.
Dans le monde ?
Je sais pas exactement leur rapport. Il est monde. Il me semble que c'est monde, ouais.
Ok, d'accord.
Je sais pas, faudra vérifier, mais
ça
me
paraît.
C'est
Moncler ?
Quoi ?
Peut-être en Europe ? Non, mais je sais pas. Vérifier.
Écoute,
mais ok.
Le deuxième nom. Elle est cinquième. Cette marque est cinquième au classement. Elle a lancé un jeu sur mobile pour célébrer le 200e anniversaire de son fondateur. La marque a collaboré avec Fornacetti sur une collection capsule. C'est toi la fashionista, hey, que je connais. Et cette marque a sorti son enceinte Bluetooth Horizon.
Non, je ne sais pas.
C'est Louis Vuitton.
OK.
Enfin, la première. Tu vas trouver, c'est sûr, Alexia. Je crois en toi. Je sais que tu vas trouver.
Non, mais c'est pas grave.
Alors, la première a fait son retour sur la scène de la haute couture après 53 ans d'absence.
Ouais.
A dévoilé une collaboration avec le jeu Fortnite.
Balenciaga.
Bravo.
Et les Simpsons.
Alors, attends, je finis la description.
Et Kim Kardashian.
Attends. A fait équipe avec Kanye West pour le lancement de son album Donda et a eu un épisode spécial avec les Simpsons. Et il s'agit bien de Balenciaga. Bravo, Laetitia.
On peut remettre un peu le... Ouais, voilà, merci. 1/3, c'est pourri.
C'est très, très bien. Tu as gagné. Si je dis que tu n'as pas gagné, je vais te faire engueuler. Laetitia, tu avais un jeu pour moi?
Oui, j'ai un jeu pour toi. C'est un QPUC. Donc, un QPUC, c'est question pour un champion ou une championne du digital. Donc, le principe, c'est que je vais donner une définition ou en tout cas un petit texte et vous devez trouver de qui, de quoi il s'agit.
Je suis concentré, je suis prêt.
Ouais. Je suis une plateforme actuellement bannie dans 2 pays.
LinkedIn ?
Non. Dans certains pays, les créateurs de contenu ayant atteint un minimum de 100 000 vues en vidéo sont éligibles pour rejoindre le Creator Fund et
YouTube.
Peuvent ainsi gagner de l'argent. Non. 25% des utilisateurs achèteraient ou rechercheraient un produit après l'avoir vu sur cette plateforme.
TikTok ?
Oui.
J'ai dit au hasard, je les ai tous cités.
Parce alors, que en même temps, ce que je me suis dit.
Vas-y, termine.
Allez, je continue quand même
vas-y.
Parce que les chiffres sont assez sympas. Les onglets Shopify commencent à être déployés, on l'a couvert la semaine dernière, pour les profils commerçants vérifiés et approuvés sur la plateforme. 1 milliard d'utilisateurs sont actifs chaque mois. Les États-Unis représentent un marché conséquent, plus de 70 millions d'utilisateurs. Mais c'est énorme pour une plateforme chinoise en réalité. Et parmi ces derniers, 61% sont des femmes. Donc, il y a plus de... Enfin, un utilisateur sur deux est une femme. Plus d'un sur deux, ouais. La société mère est... Ah, vas-y, non
bon. J'ai plus...
Ouais. ByteDance.
ByteDance, ouais.
Et est valorisée à plus de 140 milliards de dollars, faisant de cette dernière la start-up la mieux valorisée au monde. Et pour revenir sur les pays, c'est l'Inde et le Pakistan. Exactement, ce n'est plus une start-up à ce niveau-là. Les pays où c'est banni, c'est l'Inde et le Pakistan. Et je te rejoins, effectivement, LinkedIn a été banni. Je crois que c'est en Inde aussi, là, récemment. Non, c'est en Chine, pardon.
En Chine.
Et quand. Je ne vais pas venir sur cette news-là, mais bon, voilà, il parlait de TikTok. 1, 2, 3, il s'agissait de TikTok. Bravo, Adrien.
Merci beaucoup, Laetitia.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Si vous nous aimez, vous nous adorez, vous nous laissez 5 étoiles, ça nous ferait chaud au cœur. Pour retrouver toutes les notes de l'émission, vous allez sur le site lecafédelecommerce.fr. Adrien, merci beaucoup. Ciao,
merci
ciao.
Merci à tous. Ciao, ciao. À la semaine prochaine.
Camelote. Oh, ça, c'est de la camelote. Ça, regardez-moi ça. Pour vous payer ça, quand on a le...